Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité de la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de BGP et de la résilience d'Internet avec un invité, François Conta de l'ANSSI.
Bonjour.
Et pour discuter avec lui, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Hervé Schauer.
Bonjour.
Vladimir Collat.
Bonjour.
Nicolas Fischbar.
Bonjour.
Et Nicolas Ruff.
Bonjour. Donc François, tu peux nous expliquer ce que c'est que la résilience ? C'est pas la même chose que la sécurité ?
Non, alors en fait, les deux sont un peu entremêlés, mais faut pas faire d'amalgame trop facilement. En fait, nous, du côté de la résilience, en fait, on utilise la définition du livre blanc qui est paru en 2012. Et dans lequel, en fait, la résilience est définie comme telle, c'est la capacité à fonctionner pendant un incident et à revenir à l'état nominal. En gros, ce qu'on entend par là, c'est la robustesse, c'est la capacité à anticiper les incidents. Donc, alors, quand on regarde la définition, ça parle pas vraiment de sécurité. Néanmoins, bien entendu, la sécurité est liée à tout ça, parce que un incident de sécurité va forcément impliquer des problèmes, et pourrait amener à un défaut de résilience.
Et alors, quel est le lien entre... Alors, est-ce que tu peux expliquer déjà ce qu'est le protocole BGP et ensuite faire le lien avec la résilience pour les auditeurs qui ne sont pas experts du réseau ?
Ouais, alors en fait, faut bien comprendre que Internet aujourd'hui s'est construit à partir d'un EGP, donc pour Exterior Gateway Protocol. En fait, c'est un... Et le seul EGP qui existe, c'est BGP, pour Border Gateway Protocol. Alors, ça fait plein d'acronymes rigolos. Mais en fait, l'idée, c'est que on a différents acteurs sur le marché, qu'on va appeler des Autonomous Systems, donc l'acronyme est AS, et derrière un AS se cache un fournisseur d'accès, une entreprise qui va faire de diffuseurs de contenu, comme Google ou YouTube, un fournisseur d'accès de services, comme on va avoir OVH, ce genre d'opérateurs. Et en fait, tous ces opérateurs vont avoir des adresses IP qui leur ont été allouées, avec un numéro d'AS qui va être unique sur Internet, et BGP va servir à articuler en fait ces AS entre eux, et via un système de... En fait, on peut appeler ça un système de rumeurs, c'est-à-dire que... je vais vous faire une analogie, ça va être beaucoup plus simple.
Sur Internet, ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est que il y a des systèmes autonomes, autonomous system en anglais, on peut dire système autonome, et qu'il y a simplement un protocole pour gérer les communications entre systèmes autonomes, qui est BGP, et puis il y a des protocoles pour gérer les routes à l'intérieur d'un système autonome.
Ouais, mais en fait, c'est pas si simple parce que c'est beaucoup trop simpliste parce que BGP, on le retrouve un peu partout.
Mais il faut l'expliquer simplement.
Imaginons. Oui, justement, je vais te l'expliquer simplement. En fait, on peut faire une très bonne analogie entre BGP et la Poste. Imaginons, on a l'Allemagne qui est connectée en BGP avec la France et la France qui est connectée avec les USA. En fait, on va avoir un système pour la Poste assez analogue, c'est-à-dire que la France sait joindre directement l'Allemagne et directement les États-Unis. Elle va servir de relais de l'un vers l'autre. Et en fait, l'Allemagne va avoir des préfixes IP, derrière lesquels on va avoir, par exemple, Berlin et Munich. Elle va annoncer ces informations à la France. La France va les apprendre. Et elle va les redistribuer aux États-Unis avec lesquels elle est directement connectée. Et en fait, on a comme ça, via la France, l'Allemagne et les USA seraient des systèmes autonomes, comme tu les appelles. Et via ce système, en fait, on va répéter les annonces de préfixes d'IP qui sont appris par un autre pays, on va les rediffuser de proche en proche aux autres. Et en fait, c'est comme ça qu'est construit l'Internet. En fait, derrière les villes, etc., se cachent des adresses IP et donc des usagers. Alors c'est très simplifié, hein, bien entendu, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais c'est l'idée qui se cache derrière BGP.
C'est extrêmement simple. Donc en fait, Free faxe ses listes d'adresses IP tous les mois aux autres opérateurs et Internet fonctionne, c'est ça ?
Alors ouais, c'est un peu l'idée, sauf que ça va beaucoup plus vite. On est à l'échelle numérique. Donc en gros, on a un système d'annonce BGP qui est envoyé entre les différents AS qui va dire « je sais joindre tous ces préfixes et je te les annonce ». Et en fait, à chaque préfixe qui va réannoncer à un autre AS, il va ajouter une information qui est le chemin d'AS, c'est-à-dire par quel AS ces annonces ont pu transiter de proche en proche. Et donc, les USA sauront que pour joindre Berlin, il faut passer par la France et ensuite arriver en Allemagne.
Et si jamais la Russie annonce que les États-Unis, c'est par chez elle, que
Ah, mais attends, c'est bien trop tôt, ça. On va en parler plus tard. On va en parler bien plus tard, à mon avis.
Bon, mais alors, aujourd'hui, il y a combien de routes BGP et il y a combien de changements de routes par seconde, ou par minute, ou par heure?
Alors, en fait, on est à 550 000 routes dans la table de routage aujourd'hui. Ça évolue de manière constante. On est sur une constante depuis plus d'une dizaine d'années. Ce, malgré la pénurie d'adresses IPv4, ce qui est assez rigolo. Le nombre de changements de route, ça oscille. Je peux pas te donner une quantité comme ça. Je peux t'en donner une, mais on va être dans l'ordre de une cinquantaine de changements de route toutes les deux minutes, à peu près.
Et donc, le nombre de routes augmente justement à cause de la pénurie d'adresses IP, il me semble, non?
Alors, oui et non. En fait, donc il y a une pénurie d'adresses IP, donc ça veut dire que normalement, on est censé avoir l'ensemble des adresses IP qui ont été fournies aux opérateurs. D'accord? Derrière, qu'est-ce qui se cache comme idée? C'est que un AS, donc un autonome système, va avoir ces préfixes qui lui ont été donnés. Et il va les annoncer. En fait, il se passe un phénomène assez intéressant, c'est que beaucoup d'opérateurs, plutôt que d'annoncer, imaginons, le RIPE a attribué un /20 à un opérateur, plutôt que d'annoncer le /20, il va annoncer des /24. Il va désagréger complètement ses préfixes, ce qui va augmenter artificiellement la table de routage Internet. Et il y a plein de raisons derrière. Il y en a une qui est la sécurité, et on en parlera un petit peu plus tard du pourquoi est-ce que annoncer des /24, ça peut empêcher beaucoup de problèmes. Et il y en a qui sont aussi pour une question de résilience, parce que ça va être parfois plus simple de pouvoir annoncer un /20. Par exemple, on a plusieurs points de sortie. On reprend mon analogie, en fait, l'Allemagne n'est pas connectée qu'à la France, elle est connectée à la Belgique et à l'Espagne. En fait, ce qu'on va pouvoir se dire, c'est la France, c'est ma sortie globale, donc je vais annoncer mon /20 auprès de la France, et je vais annoncer juste un /24 qui va correspondre à mes services critiques vers la Belgique, qui a une meilleure qualité ou qui a une meilleure résilience de service. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que ça va me permettre aussi de pouvoir mieux gérer plus finement le trafic retour qui va arriver au sein de mon AS. Donc ça permet artificiellement de faire ce qu'on appelle du traffic engineering, de mieux maîtriser le sens retour des paquets.
Oui, ça c'est un problème assez classique, c'est-à-dire que au niveau local, chaque opérateur essaie d'optimiser en annonçant des routes minuscules, et au niveau global d'Internet, ça explose, non? Il n'y a pas eu un bug dans les routeurs Cisco quand on est arrivé à 512 000 adresses?
Alors, c'est pas un bug dans les routeurs Cisco, c'est un problème qui a été rencontré chez beaucoup de constructeurs, mais Cisco était à l'époque celui qui était le plus visible. En fait, c'était avec les équipements qui sont là depuis plus longtemps, ils sont arrivés en limite de RAM, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que la RAM qui était allouée sur ces vieilles plateformes était limitée à 512 000 entrées. Et en fait, dès qu'on a excédé cette limite, les routeurs se sont retrouvés dans une situation un petit peu ubuesque où ça ne fonctionnait plus. Donc, ils se prenaient encore dump, ils rebootaient. Et au moment où il redémarrait, il recevait encore les 512 000 routes, et on partait en boucle sur ce problème.
Et aujourd'hui, le temps de propagation et de restauration des routes dans le réseau, il est de combien?
Alors, ça va dépendre de ce qu'on appelle, donc ça c'est un phénomène de flap, une route qui va faire up-down, up-down. Ça va dépendre du nombre de routes qui sont concernées. Typiquement, si c'est juste le changement pour une seule route, le temps que ce soit propagé à l'autre bout de l'Internet, ça va prendre au maximum une minute. Ce qui est très long en réseau. En fait, il faut voir, BGP, contrairement à tous les autres protocoles de routage, c'est basé sur TCP, et les recalculs de route prennent beaucoup de temps. il y a peu de ressources qui sont allouées à ça pour justement économiser en fait le CPU et éviter que on se retrouve avec un routeur qui réfléchit trop, sachant que c'est pas son métier. Son métier, c'est de transférer les paquets.
Ce qui peut avoir des conséquences quand tu assures ta disponibilité avec BGP.
Ah bien entendu, c'est BGP. On va avoir une dispo qui est complètement différente de celle qu'on va retrouver dans des data centers en local. Ça, c'est évident.
Oui, d'ailleurs aussi BGP, c'est utilisé pour certaines solutions anti-DDoS pour activer la protection, ou c'est par donc un routage BGP que tu arrives sur les solutions de scrubbing anti-DDoS. Et là aussi, donc il y a un temps un peu long pour la bascule.
Tout à fait. En fait, le temps de convergence est assez long. Enfin, au final, à l'échelle de la problématique que subit la personne qui est attaquée, en fait, que ça mette 3 à 10 minutes pour que le trafic revienne de manière propre, c'est plutôt positif. Alors c'est sûr, on aimerait bien que ça réagisse dans la seconde, mais c'est pas le cas. En fait, le pourquoi je dis 3 à 10 minutes, contrairement à la minute tout à l'heure quand je parlais de temps de convergence, c'est que ces scrubbing centers, en fait, avant de pouvoir vraiment nettoyer le trafic, il faut qu'ils apprennent, il faut qu'ils aient une certaine quantité de trafic pour pouvoir discriminer le trafic néfaste.
Et puis ce genre de solutions, elles sont un peu plus compliquées même, parce que tu as deux choses. Soit tu le fais dans le réseau de l'opérateur, tu vas injecter une route beaucoup plus spécifique comme un /32, et c'est quasiment instantané, et tu n'as pas de problème de routage du trafic en sortie de ton lave-linge, si tu veux. Par contre, si tu utilises un scrubbing center un peu plus global, il faut que tu annonces en /24 au minimum, parce que sinon il va être filtré par la plupart des opérateurs. Et deux, il faut gérer le trafic retour. Comment est-ce que le trafic en sortie de cette machine à laver va revenir vers ton centre d'hébergement, vers tes serveurs, vers tes services, etc. Donc c'est plus ça, la mise en ligne la première fois du reroutage de trafic et du trafic nettoyé.
Ouais, alors ça c'est un problème assez fréquent, c'est que les gens s'intéressent au DDoS à partir du moment où ils sont sous le coup d'une attaque. Et effectivement, la mise en place, généralement ça se fait avec des tunnels GRE ou avec du niveau d'eau en MPLS via des liens privilégiés qui sont montés au sein de data center. C'est la mise en place de ces principes, ça prend du temps, et si c'est fait dans l'urgence, généralement ça prend beaucoup plus de temps parce que les gens sont stressés et font des erreurs.
Mais le temps de convergence d'une minute, il est dû à quoi? Enfin, quel est le diamètre de l'internet en fait aujourd'hui? C'est un problème de propagation d'une extrémité à l'autre, ou c'est un problème simplement que les routeurs font ça le recalcul des routes dans une tâche de basse priorité?
Alors c'est le dernier élément en fait. Le recalcul de route, il se fait toutes les X secondes. C'est pas contrairement aux autres protocoles de routage comme les IGP, OSPF, ISIS, c'est des systèmes où, comme on n'est pas en TCP, donc on n'a pas d'assurance comme quoi le paquet qu'on a émis a bien été reçu. Ce sont des protocoles qui floutent très fréquemment, et la taille de ces protocoles de routage, enfin la taille des réseaux qui sont gérés par ces protocoles de routage sont bien plus petites. Généralement, on parle d'un maximum de 10 000 routes dans un OSPF, parce que ça calcule très très vite. Dès que ça reçoit une mise à jour, il recalcule immédiatement son Dijkstra et va ensuite repropager l'information à ses voisins. Alors que BGP, on va recevoir la signalisation, donc update sur une route, ok, je prends mon temps, j'attends de voir si j'ai pas d'autres updates qui vont arriver dans les secondes qui suivent, et là je vais faire mon calcul.
C'est plus
ensuite,
robuste.
Je vais propager l'information.
Exactement. Et puis, oui, exactement, c'est aussi du saut par saut, il faut pas oublier ça. Donc je pense que la question de Nicolas sur le diamètre est importante, parce que t'as quoi aujourd'hui? Tu dis que si t'as plus de 16, 18 sauts d'AS, t'es vraiment au bout de l'internet.
Oh, en fait,
tant que t'as pas fini de voir moins. Alors, donc...
c'est après tu rentres dans le deep web.
Ouais. Alors, au niveau nombre de sauts d'AS maximum, si on prend pas en compte ce qui s'appelle l'AS prepending, on est à 8 sauts maximum.
Ah, c'est pas énorme.
Non, c'est pas énorme.
Mais en fait, c'est pas étonnant, parce que tu as quelques opérateurs globaux, donc ce qu'on appelle les tier 1, et très souvent dans un des premiers sauts, ça va être un de ces tier 1. Donc en fait, c'est eux qui concentrent beaucoup de l'internet. Donc tu vois, l'internet est beaucoup plus long au niveau de diamètre logique il y a bien longtemps, mais maintenant il y a une telle concentration sur ces niveaux de tier 1 que le nombre de sauts d'AS, comme disait François, est limité.
Alors justement, en termes de résilience, il y avait une histoire il y a quelques années où deux opérateurs tier 1 américains s'étaient engueulés sur un contrat et avaient décidé de splitter l'Internet. C'est des choses qui peuvent arriver, ça, aujourd'hui, à cause des concentrations
Est-ce que ça peut arriver? Tout est toujours possible. Hein. On peut très bien avoir un tier 1 qui a décidé de se fâcher avec un autre. Néanmoins, c'est des scénarios qui sont de moins en moins envisageables aujourd'hui parce que faut pas oublier que derrière des tier 1, il y a des clients. Et les clients, ce sont eux qui amènent l'argent. Et forcément, ils peuvent pas aller à l'encontre des motivations qu'il y a derrière leurs clients.
Ils sont tous américains, ces tier 1, d'ailleurs. Hein.
Non, pas tous. Il y a Tata, qui est un des plus gros opérateurs et qui est un des plus gros câbliers au monde. Il est pas vraiment il est à moitié tier 1. Certains le considèrent, d'autres non. Il y a OBS, Orange Business Service, qui en fait ou pas partie, ça dépend des paroisses. Mais ouais, Tata Telecom est un des plus gros opérateurs.
Tu as aussi des Japonais, non?
NTT, non?
Ouais, je crois NTT, oui.
Il y a BCW aussi qui était plus ou moins dans la liste des tier 1 à un moment. C'est quelque chose qui bouge un peu en fait. Plus beaucoup, mais ça avait pas mal bougé un certain moment.
Et puis tu dois sûrement avoir aussi Deutsche Telekom, j'imagine. Enfin, en gros, tu as France, Allemagne, États-Unis, Inde, Japon, et voilà.
Ouais, à peu près. On est dans ces eaux-là.
Pour revenir au problème, alors c'est quoi les problèmes de résilience de l'Internet? C'est que si je suis un tier 1, j'annonce des bêtises et je fous tout le monde par terre. C'est quoi les problèmes?
Alors en fait, on va plus tomber sur des problèmes d'accès aux services. Qu'est-ce qui se cache derrière le problème d'accès aux services? En fait, c'est ce qu'on va appeler les hijacks BGP. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière un hijack? Alors, il faut faire la différence entre deux choses, entre un hijack BGP et de l'IP spoofing, donc l'usurpation d'adresse IP. Un IP spoofing, on va commencer simple, et ça, normalement, la plupart des gens qui écoutent ce podcast voient de quoi je parle. C'est juste, on va générer une IP source qui n'est pas celle qui est légitimement portée par la machine qui va émettre le paquet. Soit. Ensuite, on a donc le hijack BGP. En fait, c'est moi, je décide d'annoncer une route, donc un préfixe d'adresse IP, dont je n'ai pas la délégation. C'est-à-dire que l'oreille m'a donné certaines adresses IP, et je vole les adresses IP d'un autre opérateur et je les annonce sur Internet. Et à partir de là, en fait, on a un gros problème parce que en BGP, on n'a aucune assurance de la légitimité de la source. Et ça, c'est un très très gros souci. Donc, c'est là où on a un vrai problème de résilience avec BGP, c'est que nos services peuvent être inatteignables par certaines personnes sur Internet.
Mais comment ça se fait qu'il n'y ait pas d'authenticité de la source? Enfin, je veux dire, on a vendu des PKI pendant 10 ans, on a fait 30 ans de travaux à l'IETF, il doit y avoir des solutions
techniques. Ah mais non, mais attends, il faut de l'agilité, il faut
RFC 7454.
Alors oui, alors c'est bien joli les RFC. Le problème, c'est que BGP, c'est un très très vieux protocole. Et alors, il avait été quand même plutôt bien fait, notamment avec l'extension qu'il y a eu, qui est MPBGP, donc Multiple Protocol BGP, ce qui permet de faire transporter plein de choses, comme IPv6, ou encore MPLS et d'autres choses, d'autres joyeusetés comme FlowSpec, qui permet de diffuser via BGP des règles de firewalling au sein de son réseau. C'est une sorte de, je vais dire un gros mot, hein, mais c'est une sorte de SDN pour les règles de pare-feu sur des routeurs, qui sont assez efficaces. Après, les évolutions pour essayer d'améliorer la sécurité, donc comme tu disais, avec des PKI, donc le concept existe, il est même en production chez un certain nombre d'opérateurs, mais sous une forme qui va pas forcément plaire. En fait, donc ce qui se cache derrière, c'est l'acronyme RPKI, qui permet de vérifier l'origine d'un préfixe. Donc en gros, un opérateur va signer ses annonces de préfixe et les annoncer sur Internet. À partir de là, l'update va transiter d'AS en AS. Moi, je vais recevoir l'annonce dans mon AS et je vais vérifier si la signature est valide. Ok, super, c'est formidable, ça marche très bien. Seulement, le gros souci, c'est un peu comme l'IPv6, c'est l'adoption des gens. Tant que tout le monde ne joue pas le jeu, on ne peut pas mettre en prod la RPKI. C'est-à-dire que on va que pouvoir vérifier si l'annonce est valide et l'accepter. Si jamais elle est invalide, on va passer en mode fail-safe. On va dire, bon, mais je vais la prendre quand même. Et si jamais c'est pas signé avec RPKI, on va quand même la prendre parce qu'il faut quand même que Internet, ça fonctionne. Donc on est sur un problème de poulet d'œuf sur la sécurité de BGP vis-à-vis de ces annonces.
Juste avant, tu parlais d'IAC BGP, mais en fait, il y a deux grandes familles d'attaques là-dessus. Il y a l'attaque vraiment volontaire à la russe ou à la chinoise, et l'attaque où c'est pas vraiment une attaque, c'est totalement involontaire, comme ce qui s'était passé en Indonésie il y a 2 ou 3 ans, où un opérateur avait annoncé d'un coup 300 000 routes sur les 500 000, je crois que c'était Indosat ou un truc comme ça,
ouais.
Et avait annoncé d'un coup 300 000 routes. Bon, c'était juste une erreur humaine. Finalement, très peu de routes avaient été prises en compte, mais parfois, tu as des erreurs juste de manipulation.
Alors ouais, exactement. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'erreur des gros doigts. Enfin, l'attaque gros doigts, c'est des gens qui font des typos ou qui oublient certains garde-fous en fait quand ils font des interconnexions BGP. Typiquement, et ça arrive très souvent sur des interconnexions de peering. Donc qu'est-ce qu'on entend derrière une interconnexion de peering entre deux opérateurs ? C'est que contrairement à une interconnexion classique BGP, c'est-à-dire j'annonce toutes les routes que je connais et j'apprends toutes les routes que mon homologue échange avec moi. Une interconnexion de peering, en fait, on va tirer un lien physique entre deux opérateurs et on ne va s'échanger que nos propres routes en interne, c'est-à-dire nos réseaux et les réseaux de nos clients. Mais c'est tout. Et en fait, souvent, c'est sur ces interconnexions, on va mettre des garde-fous, on va dire, ben, je vais autoriser qu'un certain nombre de préfixes à être annoncés par mon homologue et si jamais on dépasse ce seuil, je coupe la connexion. Par exemple, mon client avec lequel j'ai monté une interconnexion de peering, il m'annonce 100 préfixes, je vais mettre une limite à 400, histoire que on puisse avoir une certaine évolutivité sur le nombre de préfixes qu'annoncera cet opérateur. Et ces garde-fous, certains les oublient. Ça a été le cas de Dodo, d'Indosat, etc. Ça, généralement, en fait, l'opérateur qui fait cette erreur, il se retrouve noyé sous les flux de la personne vers laquelle il a annoncé toutes les routes de l'internet et il se casse tout seul en fait. Donc c'est une erreur qui est auto-cicatrisante. Après il y a l'erreur volontaire. Après il y a le hijack volontaire où là on va cibler clairement des préfixes et les annoncer sur internet. Seulement ça c'est une attaque qui est un petit peu visible parce que quand on regarde ce qui se passe c'est que moi imaginons donc je suis si on revient sur mon exemple je suis l'AS France. Et je suis un peu méchant et je décide d'annoncer les adresses IP qui correspondent à la ville de Munich. Les USA, quand ils vont recevoir mon annonce BGP, ils vont regarder, ils vont voir la France annonce Munich. Et il y a un réel problème. Donc ça se voit. En fait, les gens autour vont pouvoir le voir. En revanche, si on étend un petit peu Internet et donc l'Allemagne est connectée directement avec l'Ukraine et relaye à la France, en fait, on pourrait voir l'Allemagne qui va usurper en fait le numéro d'AS d'un autre pays et annoncer les préfixes. Et donc ça, c'est quelque chose qui est beaucoup moins visible parce que on a un numéro d'AS qui est valide par rapport au préfixe qui est annoncé.
Et c'est des choses qui existent ?
C'est des choses qui se voient. Et ça, le seul moyen de pouvoir le détecter, c'est de vérifier le chemin d'AS qui, en gros, c'est de voir si dans le graphe qui constitue l'Internet, on a une interconnexion qui existe déjà. Donc ça veut dire c'est prendre des photos récurrentes de l'internet et de vérifier que les interconnexions ont déjà existé dans le passé.
Mais qui fait ce travail parce que
alors qui fait ce travail tout le monde est personne. Alors il y a des gens comme nous via l'observatoire de la résilience de l'internet, c'est des choses qu'on fait de manière permanente, c'est-à-dire on garde des traces de toutes les interconnexions qu'on voit. Y a des gens comme Renesis qui fait ça aussi et qui sort des bulletins tous les 6 mois d'analyse sur les différents incidents qu'ils ont pu voir sur Internet. Et il y a donc des services de type BGP-MON permettent de surveiller les préfixes. C'est-à-dire que moi, opérateur, je vais m'abonner à BGP-MON, je vais lui donner les préfixes qui m'appartiennent et que j'annonce sur Internet, et je vais aussi déclarer mes voisins. Et si jamais lui, BGP-MON, dans l'analyse des préfixes qui sont annoncés sur Internet, voit une interconnexion entre mon AS et un autre qui n'a pas été déclaré, dans ce cas-là, il y a une alerte qui est levée et une action doit être prise par la personne qui est attaquée.
Et donc c'est secure, BGP ? Parce que tous les mécanismes de surveillance sont en place.
Ouais, mais pas par design. Et ça, c'est un grand problème.
C'est presque du post-mortem, Nicolas. C'est ce que tu vois, quoi. En fait, c'est que pendant très longtemps, les gens croyaient que c'était complètement volatile. Tu le faisais, tu disparaissais, personne ne pourrait rien voir a posteriori. Maintenant, t'as plein, et France en a cité des sociétés, des groupes, il y a aussi Qaida, le RAIP et d'autres, qui constamment sauvegardent les updates BGP, font des traces routes en permanence, scannent en permanence, etc. Donc, tu vas forcément te faire attraper, mais très souvent a posteriori. Donc, c'est du réactif.
C'est le principe des antivirus. Tu cliques sur toutes les pop-up de sécurité, tu dis yes partout, puis à la fin, t'as un logiciel qui bloque l'exécution sur ta machine, quoi.
Sauf que là, l'exécution, elle n'est pas bloquée.
Oui, c'est là, tu ne te fais même pas attraper. C'est simplement, c'est visible. C'est un petit peu comme la vidéosurveillance. Si tu vois que tu as été cambriolé ou que quelqu'un a volé la voiture dans le parking, mais tu ne l'empêches pas. Non, mais en fait, une des questions, c'est tu détectes, d'accord, mais qu'est-ce que tu fais après ?
Ok, alors, c'est là où en fait, les solutions, elles sont assez, assez étonnantes. Enfin, ou pas. Hein. La première, elle est technique. On va tout de suite faire annoncer le préfixe le plus petit possible sur Internet. Le préfixe le plus petit en BGP, c'est en /24, enfin le plus précis. Et on va espérer que l'attaquant n'ait pas annoncé en /24, parce que là on se retrouve en concurrence, et on se retrouve avec ce qu'on appelle une zone de pollution, c'est-à-dire les personnes qui ont reçu l'annonce délictueuse et qui sont plus proches de l'attaquant que de la personne légitime vont être concernés par ce hijack. Et après, il y a la deuxième solution qui généralement se fait aussi en parallèle, hein, c'est on va contacter l'opérateur de transit, donc l'opérateur qui est le premier hop après la personne qui fait l'annonce délictueuse, et on va lui demander de bloquer le trafic, enfin d'empêcher cette annonce. Et ça, ce sont les solutions en réaction.
Et ça marche ?
Ça fonctionne très bien, sauf quand l'opérateur de transit est dans un autre, dans une time zone très éloignée de la nôtre. Après, faut pas se mentir, BGP. Enfin, le monde de BGP est un monde pas si grand que ça, en fait. On n'est pas sur un nombre d'interlocuteurs gigantesques. Et ceux qui sont transitaires, donc qui vont permettre à un opérateur de se connecter et d'avoir l'ensemble des routes pour joindre le reste de l'internet, il n'y en a pas pléthore. Donc c'est ce qui sauve un petit peu tout le système, c'est que ce sont des gens qui se connaissent, qui sont généralement dans le métier depuis longtemps, et qui ont des relations plutôt positives.
Non, mais enfin, est-ce que tout ça, c'est finalement des relations entre opérateurs. Mais finalement, moi, je suis client final, je me suis fait hijacker ma plage d'adresse IP. Est-ce que je peux faire quelque chose, ou est-ce qu'il faut juste que j'attende que ça passe et compter sur le fait que mon opérateur soit bon ?
Ah non, bah là, la première chose à faire, c'est directement déjà contacter son opérateur de transit. Enfin, c'est soit déjà annoncer le /24, voire pour essayer de récupérer un maximum le trafic qui peut être détourné par le hijacker, et ensuite essayer de contacter l'opérateur de transit. Enfin, ils ont des systèmes, enfin. Comme tout, ils ont des abuses et ils ont une astreinte H24.
Oui, mais enfin, c'est pas l'utilisateur final qui le fait, c'est son opérateur. Enfin, même ouais, moi, Même moi qui ai une provider indépendante, c'est l'opérateur qui route mon adresse qui va le faire.
Ouais, et là c'est le NOC de ton opérateur qui doit faire ça.
Voilà, c'est exactement. Ah oui, mais je vous rassure, hein, personne n'a jamais usurpé mon adresse. Hein. Moi, on m'attaque pas, donc je suis pas une cible.
Non, t'es pas au courant, c'est ça la différence.
C'est, voilà, c'est ce que
c'est
tu crois.
C'est plus subtil.
Mais en fait, tu as deux cas. Tu as ceux qui ont leur propre AS, auquel cas ils ont un NOC, ils ont des personnes sur place, et les entreprises de plus petite taille qui n'ont pas leur propre slash, enfin leur propre sous-réseau IP. Dans ce cas-là, elles n'ont que leur opérateur à contacter.
Ah non, moi j'ai pas d'AS, évidemment. J'ai pas besoin d'avoir plusieurs liaisons.
Non, mais je pense que même les entreprises qui ont leur propre AS pour en avoir un, pour faire de la résilience, pour avoir des accès multiples via plusieurs opérateurs, même eux n'ont pas le NOC, comme disait François, ils n'ont pas les contacts chez les autres opérateurs. Donc, le plus souvent, c'est tes clients finaux, tu passes par ton opérateur qui, comme dit, les gens se connaissent, il y a des mailing lists privés entre opérateurs, etc. C'est le moyen le plus rapide. Après, l'autre attaque, l'autre moyen de faire quelque chose, c'est aussi d'utiliser DNS. En fonction de comment t'es impacté, et qu'est-ce qui est impacté? Il y a des gens aussi qui vont mettre à jour leurs entrées DNS pour rediriger le trafic autre part, le temps de récupérer la plage d'adresse qui est hijackée.
Oui. En fait, ça sert à quoi d'hijacker des plages d'adresse?
Bah, c'est juste pour faire chier le monde.
Ah non.
Ah non, il y a plein d'usages.
Que... Je t'en prie, Vlad.
Ce que je me suis laissé dire, c'est que ça servait à...
Les petits malfaisants.
Ah, tu parles de moi, là? Tu peux faire plein de choses. Tu peux faire du man in the middle, tu peux enregistrer le trafic chiffré pour essayer de le déchiffrer plus tard. Tu peux faire pas mal de choses.
Oh, il y a des usages beaucoup plus terre à terre. Hein. Envoyer du spam, par exemple.
Ouais, il y a ça, oui. Quand tu
ça,
es
spammeur. C'est des choses qui se voient beaucoup. Hein. Et que la propagation du hijack aille loin ou pas, ces gens-là s'en fichent. S'ils arrivent à toucher une quinzaine d'AS, c'est déjà, ils ont déjà fait. Rempli la moitié du boulot. Hein.
Voilà, donc là, tu voles les adresses IP d'Hervé qui ont une bonne réputation en termes de spam. Tu les utilises pour envoyer du spam et après, hop, tu arrêtes.
Exactement.
Mais, et ça, c'était le sport favori il y a quelques années. Hein. C'était impressionnant. Hein. Et tu trouvais un opérateur, ce qu'on appelle bulletproof, qui les annonçait pour toi pendant quelques heures. Et les spammers ont abusé ça, la réputation IP, pendant un bon petit moment. Hein. Mais le reste, comme disait François, c'est beaucoup de problèmes entre la chaise et le clavier, hein, où c'est toi qui faisais l'allusion, Vlad, quoi, où les gens se trompent, font une erreur, et puis le troisième cas, c'est plutôt les États qui veulent bloquer l'accès à un service, si le réseau social ou autre, en cas de conflit, de crise, pour contrôler de l'information, qui vont dire à leur opérateur national de filtrer, et eux, ben, ils se trompent, et puis t'as tout YouTube qui est détourné vers le Pakistan, ou des choses comme ça qui sont arrivées, donc t'as vraiment aussi ce cas d'usage, si on peut appeler ça un cas d'usage.
Après, t'as des cas d'usage plus rigolos. C'est, il y a eu l'exemple en 2014, en août, il y avait un opérateur qui a usurpé un préfixe dans AS canadien, et derrière ce préfixe, il y avait des serveurs Bitcoin. Et là, ça a été beaucoup plus intéressant pour financièrement, j'entends. Hein.
Parce que quand tu hijack une adresse Bitcoin, tu peux récupérer l'argent après.
Bah en fait les personnes qui étaient concernées, donc c'est entre un miner Bitcoin et puis le serveur, c'est une session en TCP, et les personnes avaient hijacké le préfixe, ils avaient vu qu'ils avaient plus de connexion, ils ont juste relancé leur client Bitcoin, là ils se sont reconnectés mais au mauvais serveur, et ils ont miné gratuitement pour ces gens-là. Et je crois que ça s'est monté à 80 000 $, un truc comme ça, sur l'affaire de 5 heures. Mmh.
D'où l'intérêt du certificat de pinning.
Ouais.
Et il y avait une histoire dans la presse comme quoi la Chine avait détourné tout le trafic américain pendant une quinzaine de minutes. Oh, ça remonte au moins à 2010. Mais...
Ouais. Oui, effectivement, il y a eu cette affaire, mais en fait, c'est pas parce que c'est des Chinois qu'ils ont pas le droit d'avoir des gros doigts, en fait. C'est moi, je pense que erreur humaine, hein, tout simplement, et juste que comme c'est des Chinois, on les targue d'avoir été.
Les Chinois ont les gros doigts, les Américains ont les petites mains, c'est ça?
Bon, les Américains ont pas besoin de faire ça puisque tout Internet passe par chez eux. C'est pas la peine de rerouter Internet puisque ça passe déjà par chez eux. Mais d'ailleurs, toutes ces attaques, parce qu'on en parlait beaucoup, j'ai l'impression, il y a 2 ou 3 ans, mais est-ce qu'on en voit encore aujourd'hui autant qu'avant, ou parce que j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup moins?
Alors, toujours, mais pour les gens comme nous, comme nous, j'entends l'observatoire, c'est plus difficile à détecter qu'avant. En fait, avant, il y avait un AS qui annonçait un préfixe et c'était pas le même qu'avant. On pouvait suspecter un problème. Aujourd'hui, on a plein d'opérateurs qui font ça, mais sauf que c'est leur boulot. Et c'était ce dont on parlait tout à l'heure, c'est les boîtes qui font de la dépollution des DOS. Et du coup, en fait, on voit beaucoup plus d'hijack qu'avant. Enfin, on voit beaucoup plus d'hijack, mais on se rend compte a posteriori que une grande partie de ce qui est vu est en fait complètement légitime. Et c'est juste les opérateurs de nettoyage qui vont usurper le préfixe pour récupérer le trafic et ensuite le reverser propre à leurs clients.
Mais ça fait deux fois que tu parles de l'Observatoire de la résilience d'Internet. Tu peux expliquer en deux mots ce que c'est, ce que ça fait et...
Alors, en fait, l'Observatoire de la résilience d'Internet en France, c'est une initiative qui a été montée en 2009 avec la FNIC. Et on s'est attelé à essayer de mesurer la résilience de l'Internet sur le territoire français via le prisme de deux protocoles hein, que sont DNS et BGP. Et en fait, on est parti d'un certain nombre d'indicateurs sous chacun de ces protocoles pour mesurer la capacité des opérateurs ou des fournisseurs de services à pouvoir faire face à un incident, c'est-à-dire à la perte d'un fournisseur de transit, à une rupture de lien, à un défaut à une panne sur un routeur, et ce genre de choses. Et après, bien sûr, le même pendant du côté DNS, sur la dispersion des serveurs DNS qui font autorité, est-ce qu'ils sont derrière le même préfixe ou pas, est-ce que l'opérateur a plusieurs points de sortie en BGP, etc. Et on a des rapports qui sortent de manière annuelle entre juin et septembre de chaque année, où on a une analyse donc des données analysées sur l'année.
Et alors, les données sont bonnes ? L'Internet est résilient ?
Comme chaque année, il est dans un état plutôt satisfaisant. On a de la chance en France parce que on a un réseau qui est plutôt très très bien maillé. On a beaucoup de gens qui sont dans le métier depuis un certain temps et donc qui font les choses plutôt bien par rapport à d'autres. Alors on n'est pas les meilleurs, hein, loin de là, mais on est plutôt bien loti. Puis il faut pas oublier la France, d'un point de vue interconnexion physique, on est quand même très très bien parce qu'on a tous les liens, on a une grande partie des liens transat qui passent par nous. On a beaucoup de liens vers le continent africain qui passent par Marseille et par Toulon. On a tout le côté est, enfin. Le reste de l'Europe de l'Ouest avec laquelle on a des interconnexions privilégiées. Donc non, on est plutôt très très bien en France de ce point de vue-là.
Et pour ceux qui savent pas, tu veux un peu parler de comment vous mesurez TraceRoute, les bases WIS, les systèmes Atlas chez RIPE, les routes serveurs, etc., etc.
C'est une parfaite transition parce que alors ça c'est un élément dont tu as parlé tout à l'heure très rapidement, c'est que toutes les données qu'on utilise pour BGP, c'est des données publiques qui sont reversées par une initiative du RIPE, qui s'appelle le RIS, pour Router Interconnection Service, si je me trompe, Information Service. Donc ce sont des collecteurs BGP passifs qui reçoivent les full view de routeur sur internet et qui les dump dans un fichier au format binaire. On a développé notre propre extracteur de ces fichiers binaires qui nous les sort en fichier plain text sur lesquels nous on mène des analyses pour vérifier si on détecte des usurpations ou ce genre de choses. En plus, on utilise donc ça nous permet d'avoir le feed, enfin les informations de routage BGP sur Internet. Et à côté, on croise ces informations avec les bases de données des IRR, donc le RIPE pour l'Europe, l'ARIN pour les États-Unis, le LACNIC, l'APNIC et l'AFRINIC. En gros, on récupère les objets routes qui sont contenus dans ces bases de données. Un objet route, en fait, c'est un tuple hein, qui va contenir deux informations, un préfixe IP et un AS origine. Et du coup, ces objets route nous permettent de vérifier la légitimité d'une annonce BGP sur Internet. Seulement, le gros problème de ces objets route, c'est une déclaration que doit faire l'opérateur. Donc moi, je suis l'AS Tartampion. Le RIPE m'a donné des préfixes, je peux les annoncer sur Internet. Mais si je veux faire les choses bien, si je veux suivre les bonnes pratiques BGP, si je vais recevoir les préfixes, au moment où je les ai reçus, je vais créer un objet route avec mon numéro d'AS, le préfixe que je vais annoncer sur Internet, et à partir de là, je vais commencer à l'annoncer sur Internet. Ça permet de donner une légitimité à cette annonce.
Et la plupart des opérateurs dignes de ce nom filtrent pas justement avec des maxprev dont tu parlais tout à l'heure, mais aussi avec des filtres de préfixes pour justement n'autoriser que les objets route que toi tu as déclarés dans ta base WIS, normalement. Donc c'est un problème de bon voisin comme d'habitude.
Exactement. Le seul problème à ça, enfin le seul problème, non, enfin, c'est quelque chose que nous on pousse de manière systématique, que ce soit en présentation ou dans notre rapport, c'est une déclaration systématique des objets route. Et qui servent justement à mettre en place ces filtres. Le problème, c'est la mise à jour de ces filtres. C'est-à-dire qu'il faut que l'opérateur qui va mettre en place ce filtrage soit suffisamment réactif pour son client, le client avec lequel il aura mis en place ces filtres. Donc c'est comme des règles de pare-feu, hein, où on va dire ben, le préfixe, je le laisse passer ou pas. Il faut qu'il mette à jour ces listes de manière plutôt dynamique. Et donc, bah, ça veut dire il faut mettre en place, il faut faire du ce qu'on appelle du DevOps, c'est pouvoir faire des développements annexes pour pouvoir interagir directement avec les équipements et ajouter les règles au fil de l'eau quand ça arrive dans les bases de données.
Le DevOps, c'est un peu plus que ça.
Oui, non, bien sûr.
Ça, c'est juste du développement.
Ouais. Ce que je veux dire, c'est que ça rentre dans cette lignée des développements qui vont autour de l'opérationnel. Quoi. Et ça, c'est pas systématique, comme souvent dans les entreprises, le plus important, c'est de faire de l'argent, et derrière ce genre de système, il n'y a pas forcément une monétisation immédiate qui est vue par la hiérarchie. Donc, c'est aussi pour ça que nous, on pousse énormément les gens, on essaye de donner l'élan en montrant que c'est les bonnes pratiques et c'est les bonnes manières de faire. Seulement, ça va pas protéger des hijacks, ça va protéger nos clients de faire des hijacks. Et c'est un peu le même problème que ce que je disais tout à l'heure avec la RPKI, donc le fait de vérifier l'authenticité d'une annonce BGP via un système cryptographique. Tant que tout le monde ne joue pas le jeu, on aura toujours des problèmes et on devra accepter quand même ce qui se passe sur Internet.
Est-ce qu'il y a des moyens pour faire pression justement sur les opérateurs qui ne jouent pas le jeu pour que justement ils mettent ça en place ?
Le filtrage à base d'objets route ou la RPKI ?
Ouais, les deux, enfin même l'un ou l'autre. Est-ce qu'on peut faire pression justement sur les opérateurs, on va dire, distraits ?
Le problème de faire pression, c'est que... pour le coup, c'est un avis personnel. Le problème de faire pression sur les opérateurs sur la mise en place d'objets route et de filtrage autour de ça, c'est qu'il faut avoir une solution à leur proposer, une solution technique, c'est-à-dire un système qu'ils peuvent acheter ou installer pour pouvoir mettre en place ce système. Aujourd'hui, ça n'existe pas de manière soit open source, soit payante, à ma connaissance. Après, peut-être que je me trompe, mais ce sont des systèmes qui n'existent pas. Après, sur tout ce qui est RPKI, on a toujours un problème de rétrocompatibilité, c'est que on va avoir des gens qui utilisent des équipements qui sont extrêmement vieux et qui ne sont pas compatibles avec ce système. Donc on peut pousser les gens en leur disant ce serait vraiment bien et quoi qu'il arrive, ça vous assure d'éviter des erreurs de manipulation de la part de vos clients. Donc c'est aussi amener un certain côté résilience du point de vue de leur propre service. Mais les gens ne sont pas toujours à l'écoute sur ça.
Et en IPv6, il y a les mêmes problèmes ou pas du tout ?
Exactement les mêmes problématiques.
Ah, donc IPv6, il n'a pas apporté de, de meilleures solutions à la conception. Il faut faire du RPKI pareil.
Ouais, alors en fait, faut bien voir que c'est juste le protocole IP qui change le moyen de transport des annonces de préfixe. Ça reste le même, c'est BGP. Tout est similaire.
Donc, IPv6 promettait quand même d'avoir des préfixes plus ou moins géographiques, enfin de faciliter un peu le routage, quoi. C'était ouais. La promesse de 1995 en tout cas.
Ouais, voilà. Et puis le temps est passé. Non, on n'y est pas du tout. Hein. On est sur un système qui est extrêmement similaire à IPv4, sauf que y a moins de gens qui font de l'IPv6, donc les erreurs se voient plus facilement.
Je suis sur le site de l'Observatoire de la résilience de l'Internet. Je vois qu'il y a eu des rapports tous les ans depuis 2011, sauf l'année dernière.
Est-ce que alors non, pas sauf l'année dernière. C'est le rapport de l'année précédente à chaque fois que tu vas voir.
Donc le rapport 2014 a été publié en 2015.
Exactement. Le rapport 2015 va sortir en 2016.
D'accord. Vous anticipez pas... Parce qu'il y a des éditeurs logiciels qui mettent l'année d'après dans le titre de leur produit pour faire moderne. Mais...
Ouais, non, nous, c'est pas notre credo. Non, et comme tu te doutes, on peut pas aller plus vite que la musique parce qu'on a besoin d'avoir les données de l'ensemble de l'année qui sont passées pour pouvoir les analyser, enfin faire tourner nos applicatifs, extraire les données binaires, ensuite les passer dans Moulinette. Avoir les résultats, faire les interprétations et ensuite rédiger le rapport.
Est-ce que tout ça, c'est de l'open data ? Enfin, si moi, demain, je veux reproduire, est-ce que j'ai accès aux données du RAI ? Parce que j'ai entendu parler de routeur Glassdoor aussi qui permettait de se connecter pour...
Ouais, il y a RouteView. Alors, tu parles des Looking Glass ?
Oui, des Looking Glass,
pardon. Alors, ouais, on va faire une petite... Alors, je vais répondre d'abord à ta question. Si je veux reproduire la même chose, il y a une grande partie des choses que je vais pouvoir faire. Récupérer les données binaires, je vais pouvoir me connecter sur les serveurs du RIS. Ils archivent, donc c'est ris.ripe.net, ris.ripe.net. On peut récupérer l'ensemble des données de type dite MRT depuis 97, si je me trompe pas. Ensuite, il va falloir donc extraire les données binaires en format plus lisible pour l'être humain, et ça se fait soit avec la bibliothèque du RIPE qui est écrite en C mais qui n'a pas eu de suivi depuis je crois bien 5-6 ans, soit utiliser un des logiciels open source qui a été publié sur le GitHub de l'ANSI qui s'appelle Mabo, qui permet d'extraire les données MRT et ensuite utiliser Tabby qui permet de, à partir des données plain text qui ont été extraites de Mabo, pouvoir détecter des hijacks et ce genre de choses. Et après, il y a d'autres choses qu'on fait, mais le code n'était pas du tout satisfaisant, jusqu'à il y a peu encore, et ça ne présente que très peu d'intérêt parce que c'est juste des on va dire c'est des intersections d'ensemble entre les adresses IP qui sont annoncées sur Internet et les adresses IP qui sont déclarées au sein du RIPE. C'est pas ce qui est le plus intéressant, je pense, à faire vis-à-vis de BGP. Typiquement, tracer les hijacks, c'est un peu le nerf de la guerre aujourd'hui, et ça c'est disponible avec Mabo et Tabby.
Tu peux préciser que le logiciel Mabo est écrit en OCaml.
Oui, pardon. Oui, mais comme moi je fais pas d'OCaml, j'oublie souvent de le préciser. Effectivement, Mabo est en OCaml, ça c'est une des grandes marottes de l'agence. En revanche, Tabby est fait en Python. Et historiquement, il était fait en Perl. Tout à l'heure, tu parlais des Looking Glass. Alors là, autre sujet, les Looking Glass, en fait, ce sont des routeurs qui font du BGP, qui sont accessibles par le grand public, soit pour faire des pings, soit des traces routes, soit encore essayer de voir en BGP comment un préfixe est perçu. Et typiquement, ça va nous permettre de moi me connecter sur un Looking Glass qui est chez Sprint aux États-Unis, de faire un show IP BGP de mon préfixe et voir quels sont les AS par lesquels ça transite pour de la part de Sprint pour pouvoir me joindre.
Et le projet Atlas, dont on n'en a pas parlé, est-ce que c'est quelque chose qui est public ou est-ce que c'est quelque chose qui interne?
Alors, le projet Atlas du RIPE, hein, est totalement public. C'est un système qui en fait distribue des, enfin, ce sont des sondes qui sont données de manière gratuite à quiconque en fait la demande. C'est une petite sonde qui a un port USB pour l'alimenter et qui a besoin d'un port RJ45 pour avoir du réseau. Et ce sont des sondes sur lesquelles on peut lancer des pings à distance, des traces routes, des mesures DNS, enfin des requêtes DNS, etc. Ça permet de pouvoir soit essayer de joindre une adresse IP depuis différents points sur la planète, soit là, faire des traces routes, etc. Et ça nous permet, et y a une sortie en JSON qui est plutôt bien faite, qui permet de pouvoir donc mesurer quelle est la joignabilité d'un préfixe, est-ce qu'il est bien vu par tout le monde, est-ce qu'il y a des endroits où il y a un problème, et ce genre de choses. Pouvoir qualifier en fait un problème qui peut être remonté par des clients ou des utilisateurs.
Ok.
Bon, en conclusion, il faut écrire des nouveaux RFC pour le successeur de BGP.
Alors, ces RFC existent, hein. Enfin, une en tout cas, et sous la forme de RFC. Il y a deux solutions en fait, il y a SBGP et SOBGP. SOBGP, c'est Cisco qui est derrière, qui avait sorti ça en 2003. C'est la manière dont ça fonctionne. Moi, je suis assez sceptique parce que c'est un tout petit peu trop léger parce que c'est un système où on va marquer de manière confiante, enfin, on va marquer avec des moyens cryptographiques des relations de confiance entre deux AS, tandis que SBGP va lui faire deux choses. Donc c'est là-dedans que se retrouve la RPKI, donc le principe de signer les annonces BGP qui sont faites. Donc on signe l'origine. Et donc ça c'est déjà en place. Et la prochaine étape, c'est de mettre en place la signature de chemin. C'est-à-dire que quand on va recevoir une annonce de préfixe, on va vérifier l'origine. Donc ça ira très bien. Ensuite, on va vérifier que l'ensemble des AS qui sont censés être sur le chemin sont bien ceux qui ont signé l'update. Les gros problèmes qu'il y a derrière tout ça, enfin les gros problèmes, les choses sur lesquelles faudra être très vigilant, c'est que les routeurs BGP, ce sont des CPU à faible capacité. Et donc forcément, un DOS sur de la crypto, ce sera des choses qui sont complètement envisageables. Donc il y a des idées de faire la crypto out of the box, enfin hors des routeurs, avec des serveurs dédiés pour ce genre de choses. Enfin bref, il y a pas mal d'architectures sur lesquelles il y a des réflexions qui sont menées. Et on a le successeur de BGP, mais on aura toujours le problème de poulet d'œuf. Donc on espère que les choses avanceront à ce niveau-là.
Ah, ça, c'est saut BGP.
Puis de toute façon, il y aura une partie cohabitation tellement longue des deux protocoles hein, qu'il y aura toujours les problèmes de l'ancien.
Comme IPv4 et IPv6. Après, l'avantage
Non, mais IPv4 et
de
IPv6,
SBGP.
contrairement à certaines idées reçues, il n'y a aucun objectif de migration. Il y a une cohabitation éternelle. Bon, c'est un autre
Oui,
sujet.
mais après. SBGP et SOBGP, eux, on va dire, sont vieilles RFC compliantes. Donc ça, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait un interlocuteur sur le chemin qui ne parle ni SO ni SBGP. Les standards qui sont proposés sont transitifs.
Mais globalement, enfin, je pense que toi et moi, on sera à la retraite avant que BGP soit remplacé par quoi que ce soit d'autre.
Oui, comme le jour où IPv4 mourra, je pense que c'est des choses qui arriveront très très tard.
Je pense que le fait que BGP fonctionne à l'échelle, parce que quand même, on se rend compte que l'Internet converge à l'échelle, que c'est relativement simple et que les gens ont même construit beaucoup de choses au-dessus de BGP, comme tu disais, MPBGP, BGPLS maintenant et d'autres choses. De penser que ça va changer, qu'on va déployer, que ce soit SOBGP, SBGP ou autre, j'ai un très très gros doute.
Et
Ouais,
juste pas
on
que.
va rester sur les contre-mesures, hein, que ce qu'on disait sur les filtres à base d'objets routes et peut-être, enfin, ça c'est un de mes vœux pieux, c'est que les gens adoptent l'URPF de manière systématique sur leur leur point de collecte de sortie de Switch, là on aura gagné.
Je pense qu'il faut que tu expliques ce que c'est URPF et quelle est la relation entre une table de routage et du spoofing IP URPF. Je pense pas que tout le monde sache.
Ouais, effectivement, j'allais arriver à... C'est en gros le principe du RPF, c'est relativement simple. C'est je suis en équipement, j'ai une table de routage qui me dit que pour joindre tel préfixe, je dois passer par telle interface. Si j'ai URPF qui est mis en place sur cette interface et que je reçois des paquets IP avec une source qui est différente, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit d'arriver par cette interface-là, le paquet sera mis à la poubelle. Ça évite en gros tout ce qui est IP spoofing. Et c'est le problème, c'est que si on a plusieurs points d'interconnexion qui peuvent accepter les deux, on va pas pouvoir mettre URPF en place. Donc en fait, le seul endroit où on peut le mettre, c'est au niveau des feuilles, donc en sortie de switching, enfin en sortie de niveau 2.
Ouais, c'est limité.
Ouais, c'est limité, mais ça fonctionne extrêmement bien parce que c'est fait en ASIC. Donc en gros, ça coûte pas en matériel.
Et donc, pourquoi est-ce que les gens le font pas?
Parce que les gens ont peur, généralement. Souvent, c'est souvent à cause de ça, parce que parfois, leur réseau, il marche sans forcément qu'il soit complètement maîtrisé. Et ils pensent que le trafic va partir par une interface, mais en fait, il part par une autre, parce que les protocoles de routage ont cette robustesse de... dans le cas où il y a un côté qui n'est pas bien configuré ou un port qui est tombé, en fait, ça ne va pas se voir au niveau utilisation, c'est-à-dire que les paquets continuent à transiter parce qu'on a des chemins différents, mais dans la réalité, ce n'est pas forcément ce qui est attendu par l'administrateur ou la personne qui a mis en place le réseau.
Et historiquement, chat et chaudé, craint l'eau froide, les premières implémentations du RPF chez certains équipementiers étaient très mal codées. Donc tu perdais des paquets sans le savoir, enfin tu avais du packet loss, etc. Donc il y a beaucoup de gens qui veulent déployer BCP38 et autres, qui ont essayé. À l'époque, c'était que du soft et pas du hard, donc pas dans les ASIC, etc. Donc il y en a beaucoup qui ne font pas aussi parce qu'il y a eu ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, comme disait François, c'est plus une excuse. Mais après, toujours c'est pareil, hein, c'est un problème de mon voisin. Tu le fais pas pour toi, tu le fais pour les autres. Donc, ça intéresse pas forcément certains opérateurs de le faire.
Exactement.
Mais il faut passer une loi, là. C'est le bon moment de tout réglementer. C'est pas du cyberterrorisme, le spoofing d'adresse IP?
Je ne prononcerai pas là-dessus.
Et la loi, tu la passes dans quel pays? Le pays qui contrôle la planète
Et alors, Vladimir, je crois que tu as un petit fail qui n'est même pas lié à ton nom.
Tout à fait. Alors, je reprécise, le principe de la mise d'une fail, c'est de présenter un incident passé de sécurité ou un événement de sécurité en prenant un peu de recul avec humour. Mais le principe, c'est surtout pas d'accabler les gens. Donc, je ne cite aucun nom et modifier très légèrement certains éléments. Enfin, dans ce cas-là, ça a été un peu difficile, mais bon. Donc cette fois, c'est un micro-fail, tant l'histoire est courte. Avec un de mes auditeurs, nous devions faire un test d'intrusion sur une grosse infrastructure Windows et Active Directory d'un client. Donc on était à partir d'un de ces PC muni d'un compte classique sans privilège, et l'audit a duré un peu moins de 10 secondes. C'est-à-dire que la première action qu'on a réalisée, c'est de lister juste tous les comptes du domaine Windows, pour se rendre compte très rapidement que tous les comptes à privilèges, administrateurs locaux et administrateurs du domaine avaient en clair dans le champ description du compte le mot de passe. Voilà, gros gros fail.
Bah, c'est pas un fail, ça, c'est la routine. Merci.
Bien, et eh bien merci à tous pour cet excellent, magnifique épisode sur BGP.
Et la résilience d'Internet.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.